Chers amis, shalom uvracha veshavua tov, chodesh tov de sameach, mishé nikhnas adam arbim besimcha bezrat Hashem, un mois extraordinaire sur lequel il y a vraiment une grande mitzvah de travailler sa joie de vivre dans tous les domaines, malgré les nouvelles difficiles, malgré toutes les situations qu'on entend à droite et à gauche. Akol itaper le tova vedibracha, tout s'arrangera bezrat Hashem. On est aujourd'hui le dimanche 21 du mois de février et on est déjà vers le soir, donc dimanche soir pratiquement, déjà donc le Yud bientôt. Du mois de... Okay. Moins d'une heure, la prière de Mincha et d'Arvit. Le mois de Hadar. Donc, Shiur aujourd'hui. Dédié. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Pour, juste un instant. J'y arrive. Pour la réussite de Gabriel Aben Dahan, à qui on souhaite, Be'ezrat Hashem, si j'ai bien prononcé, tous les bonheurs du monde. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. On étudiera sur le libre arbitre. Vous êtes très nombreux à suivre ce shiurim sur le libre arbitre, sujet très ambigu, qui demande énormément d'explications, de profondeur. C'est très compliqué, surtout que le libre arbitre, bien quand on comprend, et si on arrive vraiment à le comprendre très très long, on rentre dans les contes divins. Donc, on a déjà fait une série de cours sur ce sujet-là, et on va continuer, puisque beaucoup me le demandent, Rav, quand est-ce qu'on continue le libre-arbitre? Voilà, et bien on continuera aujourd'hui. Gabriel Ben Dahan, Bracha Batzacha Bechomase, Adecha Bechol, Sheikh Tifne, Taskil, Vetatzliach, Lechem Tovim, Shalom, Amen, Ve Amen. En même temps, on rappellera Bezrat Hashem ce soir pour la Askara du rabbin Baluka, Peres Ben Rivka. רוח השם תנחנו בגן העדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון לנאמר אמן כל מיריטוסי דסטטיוד ילט נשמתו כזוהר הרקיעה לכם טובים ושלום אמן ואמן ובכן רפואה שלמה בעזרת השם פור מיכאל יוסף תורג'מן בן מרים החלמה מהירה בעזרת השם יתברך David ben Rachel, Hashem varech oto, Rivka bat Simcha, Bezrat Hashem itbarach, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Amen, amen. Ça c'est fait. Lelou nishmat Wendy Rachel bat Sofirika, Achlama meira Bezrat Hashem, Poshlema lelef elfe avdalim pour Bora Esther Eden bat Milen, lelef elfe avdalim laskarad, Lelou nishmat Yaakov ben Zaina Yafa. Beaucoup de noms ici, je suis désolé. El Datita Esther Bat Miriam Oufren Angisara. Ça c'était le nom du Shmat, et là par contre on est refroché le mat, tout est mélangé ici. C'est Angisara Bat Raya Simcha Laurence. Bezrat Hashem Kol Am Israël, refroché le mat pour Esther Bat Luna Kol Am Israël Bezrat Hashem Barach. On continue avec notre shiur sur le libre arbitre qui demande beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de kavanot, beaucoup d'explications. Et vous allez voir qu'on a beaucoup, beaucoup à lire. C'est pas quelques phrases, c'est beaucoup de choses à voir ensemble. Comme je le disais, les shiurim sont numérotés quand il s'agit de séries. Il est préférable d'écouter le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 avant d'écouter le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. Sinon, si vous prenez le train en plein milieu, ben, comme il roule déjà, vous risquerez de ne pas comprendre le sens profond de l'étude, non pas parce que vous ne le comprenez pas, mais parce que c'est une graduation d'esprit qui doit se respecter. Alors, il dit ici, Aval Ik, juste on revient un peu en arrière, Kevan Sheken, En Banu Koach Ledaï Ach Yada, Kadosh Baruch Hu Et Kol HaBeruyim Maasim, Aval Leda Belo Safek Shemaase Adam Beyada Adam. Alors, il dit ici qu'on le sait, que l'homme il a le choix dans ce monde. Face à ce point qu'on a expliqué dans le premier shiur, que la vie de l'homme ressemble à un arbre, et que le libre arbitre d'un homme, c'est un tout petit point de prendre la direction du bien ou de prendre la direction du mal. Et on avait vu ensemble que la direction qu'il allait en prendre, eh bien, était déjà préprogrammée. Uniquement la direction, mais il peut tout à fait en sortir à tout moment. Donc, il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de fatalité du tout, du tout. Qui t'a dit de rentrer là? Qui t'a dit d'aller dans ce couloir? Tu peux en sortir, tu peux faire tchouva, tu peux vite changer ta destinée. Changer de nom, changer d'adresse, changer de rue, changer ta façon d'être peut changer toute ta destinée. שם מיישב אין ידיעת גזירה, אבל היא כידיעת המסתגננים שיודעים מכוח אחר מה יהיו דרכיו של זה, וזו ידיעה אינה גזירה. ומתנון, il y a des gens, comme on avait vu, dans la Gemara, par exemple, de Shabbat, à la page 156 à Moudbet, on a vu que des sorciers étaient capables, comme on l'a vu avec Pharaon lui-même, comme on l'a vu avec beaucoup d'autres exemples, comme Avimelech et Sarah et Rivka et Yitzhak, qui regardaient la lecture des étoiles et qui étaient capables de voir des choses qu'on appelle Itztanenut, Itztagninim, exactement, Itztagnenut, dans le monde d'en haut. Ils ne voient que des apparences de chemin que l'on pourra emprunter, mais non pas des fatalités, comme on l'a vu avec ce sorcier qui avait vu dans les étoiles que les deux pêcheurs qui allaient donc pêcher du poisson ne reviendraient pas le soir, car il a vu l'ange de la mort les attendre à ce rendez-vous, et pourtant le soir ils sont revenus. Il leur a posé la question, il dit, mais comment c'est possible que vous soyez revenus? J'ai vu votre destinée, j'ai vu qu'aujourd'hui c'était votre dernier jour, j'ai vu l'ange de la mort de mes propres yeux. Alors comment c'est possible, a dit le sorcier. Et ils ont répondu, je sais pas. Alors le rave qui était à côté leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bah rien, on est parti. Ah oui, on a vu un pauvre et puis on lui a donné du pain de notre panier parce qu'il n'avait pas mangé. Et là le sorcier il a répondu, mais je comprends pas, à quoi, pour un morceau de pain, pour de la tzedaka que vous avez fait, vous avez changé toute une destinée. Donc vous voyez bien que chaque action de l'homme, ça sert à rien d'aller voir des marabouts, Madame Soleil, puisque il vous suffit de rentrer chez vous, d'embrasser la mezouza pour que tout ce qui vous a été d'abord menti et baratiné. Parce que si vraiment ils veulent sortir les gens de leurs problèmes, ces gens-là, d'abord qu'ils sortent de leurs problèmes eux-mêmes. Ron, construis-toi avant de construire les autres. Mais on va rester plutôt dans... Toda. Construis-toi d'abord avant d'essayer de construire les autres. Donc résultat des courses, les gens que vous voulez savoir l'avenir, et qu'est-ce qui va se passer, comme on a dit à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on lui a dit, tu sais, le jour où tu marieras ta fille, c'est le jour où elle mourra. Voilà. Quelle nouvelle pour un père. On n'est pas pressé de marier sa fille, n'achon. Et pourtant, Shulamit, Rachel, fille de Rabbi Akiva, va se marier. Et quand elle va se marier, Rabbi Akiva va être surpris de la voir le lendemain. Ceci étant, ce sera un mariage qui va durer une journée. Elle va se marier avec Ben Azaï, qui va la répudier, car il est tellement empreint de Torah, d'un niveau tellement élevé, qu'il n'aura pas le temps de rendre sa femme heureuse. Il lui dit, dans ce cas-là, je ne peux pas te garder. Le mariage, ce n'est pas le tout de mettre une bague au doigt, ce n'est pas le tout de dire « chérie, je t'aime, chérie, je t'adore » comme la salle d'or, ou je ne sais pas quoi. Le mariage, c'est un engagement à vie. C'est un engagement où tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que, eh bien, on doit le partager. C'est une... Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la vie, si tu as besoin de t'isoler pour te construire, eh bien, il va falloir partager pour te réaliser. Mais la reine Bissiata d'Ishmaïa, à partir du moment où on se rend compte que la fille de Rabbi Akiva, maintenant, se marie, Rabbi Akiva, il n'est pas bien du tout, il ne danse pas au mariage, il n'est pas là. Il se dit, mince, on a quand même prévu la mort de ma fille. Voilà que le lendemain, il voit sa fille vivante devant lui, il lui dit, quoi, t'es vivante? Elle dit, excuse-moi d'exister. Et il lui dit, non, mais je t'explique, tu devais mourir cette nuit, et voilà, je te vois vivant, alors raconte-moi ce que tu as fait. Et on entend le cri d'une nourrice qui crie comme ça en disant que l'épingle à cheveux, qui était très longue, avait été plantée dans le mur et qu'elle avait crevé l'œil d'un serpent extrêmement venimeux qui aurait causé sa mort si elle avait été mordue par lui. Rabbi Akiva lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant le mariage? Il dit, rien. Ah oui, je me rappelle, il y avait un pauvre qui est venu, qui attendait comme ça et qui a eu honte. Et je l'ai fait rentrer et je lui ai donné ma chaise, la chaise de la Kala. Comme il n'y avait plus de chaise, il y avait beaucoup de monde, je lui ai donné ma chaise. Il n'y avait pas de pandémie à l'époque. Et il s'est assis sur ma chaise et mon plat, je lui ai donné. Crier Rabbi Akiva à ce moment-là, Tzedaka tatzil mimavet mamash. Le fait d'avoir fait de la tzedaka est capable de changer tous les décrets. Tout est capable de changer grâce au fait de faire une action supplémentaire. Ce qui fait qu'une des choses sur lesquelles nous avons le plus intérêt à rester sur nos gardes, c'est de ne jamais aller chercher et à savoir de quoi est fait notre avenir. Assour de faire une chose pareille. Parce que si Chas Vesham, comme le dit Rabbi Nachman, vous accordez du crédit, voire de la tristesse, si on vous a prévu quelque chose de pas bien, eh bien vous allez l'engendrer, car l'énergie que nous prodiguons à travers nos soucis, notre joie de vivre ou son contraire, interviennent sur la réalité. Celui qui a la rame, qui est triste, qui est rasratique, il ne faudra pas s'étonner qu'il va rencontrer des problèmes tristes, rame et rasratique. Celui qui est sa mère, celui qui a l'habitude de dire « bon, c'est pas grave, on va arranger, on va faire ceci », mais vraiment, il ne va arranger pas, et il lui dit, il ne fait rien, Béhémet, il va arranger les choses de telle façon à ce qu'il va se concrétiser une réalité grâce à ce qu'il va dégager de lui. L'atmosphère dans laquelle nous vivons est très souvent empreint de ce que nous sommes, comme de juger l'autre d'après soi-même, par exemple. Toujours critiquer les uns les autres, ça revient un petit peu à nous remettre en question. Alors, Dieu seul sait l'avenir, c'est sûr et certain, mais la Torah nous guide vers un avenir en disant, si vous faites la Torah, les mitzvot, imbechukotai telechou, vek mizotav tishmeru, la Torah nous dit de quoi sera fait notre avenir, la Torah nous prévient qu'après la mort, il y a une vie, et que si on fait ce qu'il faut, eh bien, on sait à l'avance celui qui ira peut-être au Gan Eden et celui qui n'ira pas au Gan Eden, malheureusement. Ce sont des choses qui paraissent complètement abstraites, et dans le domaine de l'imagination, on a intérêt à nous préparer, parce que la mort est un accident qui arrivera à chacun de nous. Il faut prendre une bonne assurance, si Dieu veut, pour affronter un avenir qui nous attend de façon certaine, sans nous angoisser, juste avec la joie de vivre. Donc, gardez le sourire. Loulé de mistafina nir eleyashev kushazo de davka kadoshbuchu oseveyase kolamasim kulam ve en od milevado. Comme vous l'avez dit, en od milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu qui dirige absolument tout le monde. Ouma shenatan bechira l'adam, ou akadoshbuchu oset maasav baolam derech bene adam bederech shel bechira. Et là, cette phrase-là, elle est très forte. C'est une bombe atomique que nous lâche le livre Sod HaChashmal à propos du libre arbitre, qui dit que. Écoutez bien la phrase. Et le fait que Dieu ait donné le libre arbitre à l'homme, de vouloir ou de ne pas vouloir, de faire ou de ne pas faire, d'accomplir ou de ne pas accomplir, peu importe. Oula. Ça veut dire que d'un côté, on a le libre arbitre. On peut mettre les tefillin ou ne pas les mettre. Une femme peut mettre le kissouï ou ne pas le mettre. Ça me saoule, j'ai pas envie, je suis trop vieille, je vois pas quoi. Très bien, on respecte. Très bien. Ah ben, on a un chidouche, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est que, quoi que tu fasses de ta vie, si tu fais la Torah, tant mieux. Tu ne fais pas la Torah, tant pis. Tant pis. Tu fais la Torah, tu seras payé. Tu ne fais pas la Torah, tu paieras. Ça se traduit un peu comme ça au niveau des explications du Talmud et autres. C'est bien. Maintenant, écoutez bien. Il dit, il y a un truc que vous devez savoir. C'est que sur le libre arbitre d'un homme, c'est incroyable, Dieu met aussi ses plans à lui. Erzemistader. Erzemistader, comment c'est possible? Imaginez que moi j'ai besoin, en tant qu'humain, que mon fils aille à droite. Parce que là-bas se trouvent les éléments dont j'ai besoin. Et mon fils, dans son monde à lui, dans sa façon de voir les choses, il veut aller à gauche. Et là-bas, il n'y a pas les éléments que je veux. Dans ce cas-là, ben, je n'aurai pas ce que je voudrais. Parce qu'il n'est pas parti dans la bonne direction. Pourquoi avec moi ça se passe comme ça? Parce que je suis un humain. Mais Dieu, ce qu'il a d'incroyable, de fort, c'est que si Dieu veut que tu ailles à droite, parce que là-bas se trouve tout, ce que lui il a besoin que tu fasses pour que tu t'accomplisses en juif, et toi tu vas de l'autre côté, tu vas carrément dans l'obscurité, tu vas dans un endroit où il n'y a pas tout ça. Malgré tout, tu vas être, c'est incroyable, tu vas rencontrer ce dont il avait besoin de lui ramener quand même. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu sers Dieu. D'où la notion de l'interdiction formelle du suicide. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de, tout est fini, même au plus profond, du profond de l'obscurité, tu sers à quelque chose vis-à-vis d'Hachem. Tu sers vraiment à quelque chose vis-à-vis d'Hachem. Ce qui fait que Dieu surfe dans ses plans à lui, sur ton libre arbitre à toi. Et si vous allez me dire c'est impossible, je vous réponds simplement, c'est ce qui fait de lui, Dieu et nous des hommes. Lui fait ce qu'il veut, avec l'impossible, tout est possible. Nous c'est impossible, au niveau technique, au niveau mathématique, impossible. Si j'ai besoin que tu... C'est-à-dire que... viens mon mariage, dirait l'un, l'autre il dit non, je viens pas. Ben, s'il vient pas, il va manquer, donc il sera pas au mariage. Ouais. Pour Dieu, si tu viens pas, tu vas participer d'une autre façon au mariage, de telle façon à ce que ça porte ses fruits aussi. Erzemistader, comment c'est possible? Azomer, Oset ma'asav ba'olam derer bene adam bederer shel bechira. Dieu te dit, moi je t'ai laissé le libre arbitre, toi tu fais ce que tu veux vis-à-vis de tes comptes. Moi je t'ai donné des conseils, je te conseille d'être religieux, de Torah, Mizot, Nassim, Tovim. Mais sache que moi aussi j'ai des plans et que je vais t'utiliser malgré ton libre arbitre. C'est-à-dire, je te lâche la laisse au niveau d'une image un peu péjorative, le chien avec son maître, je te coupe la laisse, tu fais ce que tu veux, t'as libre arbitre, mais je te tiens en laisse. Erzemistader. Il va donner plusieurs exemples. Et donc il va nous donner ici maintenant deux exemples, celui d'Abraham Avinu et celui de Moshe Rabbeinu. D'accord, ils étaient tous dans le prêt-à-porter. Avraham Abinu et Moshe Rabbeinu. C'est la blague. Tov, le Zohar HaKadosh dans la paracha de Lech Lecha, nous dit, à la page 81 du Bet, « Chez Biglal, Shavram est venu Yarad le Mitzrayim, bli reshut me Akadosh Baruch Hu. » Rappelez dans la paracha de Lech Lecha, Dieu demande à Abraham, « Lech Lecha me'ertzecha umimulottecha umibet abicha hachel aretz asherar eka. » Donc Dieu lui demande d'aller, on comprend en finalité, vers Eretz Israël. Il y a la famine, qu'est-ce que fait Abraham? De lui-même, alors que Dieu lui a demandé de rentrer en Israël, il dit, « Oh non, par là, ça c'est trop dur, je ne veux pas y aller, je retourne en Égypte. » Ok. Le Zohar, il dit, « Étant donné que tu n'as pas eu confiance, étant donné que tu n'as pas voulu affronter les problèmes financiers en Eretz Israël, et que tu es redescendu en Égypte, donc je lis dans le Zohar HaKadosh, vous pouvez le lire lui-même, « Lech Lecha 81 Amoud Bet », ok, Biglal Shavram avinu yara de Mitzrayim bli reshut me Akadosh Baruch Hu, sans l'autorisation d'Hachem, que Dieu lui a pas demandé de descendre. La Chach Akadosh Baruch Hu leyot be'eretz Kenaan, alors que Dieu lui a dit, je veux que tu viennes en Israël. Ne'ain shu banav. Le Zohar nous dit, les enfants d'Avraham avinu devront descendre en Égypte. Donc le Zohar nous dit, pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'Avraham a fauté. Tov, bizarre. Leyot be'galut Mitzrayim shta becham. Et on va payer la faute d'Abraham Avinu de ne pas avoir eu confiance d'être rentré en Eretz Israël. Une fois, j'ai posé la question à mon rabbe, je lui ai dit, et si Abraham était rentré en Eretz Israël au lieu de descendre en Égypte? Il m'a répondu quelque chose qui m'a explosé les mochines. Il m'a dit, si Abraham Avinu était rentré en Eretz Israël à ce moment-là, eh bien, il aurait été le Mashiach et il aurait eu la Géoula. Mais il a raté une porte. Alors on est descendu dans les Galouillotes. Mais anien. Intéressant. Vechen, chatou, Moshe, bimé meriva. On va poser maintenant la question avec mon cher Rabbeinu Alav HaShalom, qui va, au lieu de parler au rocher, frapper le rocher. Garam chez mon cher Rabbeinu, l'on ichnas l'Eretz Israël. La punition a été que Moshe ne rentrera pas en Eretz Israël. Odvarim, elou, bevada, yayou, chelek, betochnit, abriya, chez la Kadosh Baruch Hu. Et là, le Zohar HaKadosh nous dit, mais attends, t'es bien gentil, mais est-ce que Dieu, il voulait que Moshe rentre en Israël, oui ou non? Non. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Étant donné que Dieu ne voulait pas que Moshe Rabbeinu, il rentre en Eretz Israël, que c'est parce qu'il a frappé le rocher, et au lieu de parler au rocher, il n'est pas rentré en Israël. Parce qu'Abraham, il est descendu en Égypte, alors ses enfants, ils vont le descendre en Égypte, ils vont être punis. C'est un petit peu bizarre. C'est se cacher derrière des excuses, on a envie de dire à Dieu. D'accord ? Et là, il répond, « Dvarim elu bevedai, alu chalek min tochnit abriya. » Bevedai, que Dieu, il avait ses plans. Et pourquoi? Il dit parce que les enfants d'Israël, on sait tous que depuis la faute originelle, où les étincelles de pureté sont tombées en Égypte, on devait retourner de toute façon, quoi qu'il advienne, ou avec la Géoula ou sans la Géoula, on devait aller en Égypte. Les Rav qui disent, non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça, c'est une bracha du Rav. Mais la bracha, si on n'y croit pas, elle ne peut pas se réaliser. Quand vous dites ici, et les raves qui disent des choses sur l'avenir, eh bien, c'est que quand on va voir un rave, lui, c'est par les plans de la Torah. Et les plans de la Torah, eux, ils ne se trompent pas. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai dit à une personne qui est venue me voir et qui m'a raconté qu'il fauterait avec la Brit Mila. Comme ça, il m'a dit, voilà, sachez, ouais, rave, j'ai un problème, je faute avec la Brit. Il fait des bêtises. Très bien. Je lui ai dit, sache que si tu ne fais pas tes chouvas, tu finiras très pauvre. Et même si tu as de l'argent, tu ne pourras pas en profiter. Il m'a dit, ah bon? Quel rapport? Je lui ai dit, c'est pas de moi. C'est marqué, Minazona le Patlechem. Celui qui joue avec la Brite, At Patlechem, c'est marqué. Alors quoi, j'ai vu l'avenir? Non. Les versets nous préviennent des conséquences. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il peut être multimilliardaire. Il n'aura jamais la bracha dans ce qu'il fait. Il a la bracha de la réussite telle que lui voit les choses dans un monde perdu. Avala la bracha de la réussite telle que la Torah le voit, que cet argent-là lui porte mamash, le réconfort nécessaire, que sa famille soit unie, que ça, il l'aura pas. Cet argent ne prendra pas avec lui dans le monde futur. C'est ce que veut dire la Torah. Alors, est-ce que j'ai dit l'avenir? Non. J'ai expliqué les conséquences de ça égale ça selon la Torah. Et la Torah, par contre, ça vient du mot aura, c'est-à-dire aura montré le chemin. La Torah nous dit, tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que dit Dieu dans Bechukotai? Et si vous me faites un bras de fer, je vous enverrai ta, et ta. Et si vous continuez à me faire un bras de fer, je vous enverrai, je vous enverrai. Après, évidemment. On comprend que la Torah nous guide, ça n'a rien à voir, c'est un mode d'emploi. C'est comme si que tu ouvres un meuble, et que tu ne suis pas le mode d'emploi de comment monter le meuble. Comment il monte? Tordu. Alors maintenant, toi, tu regardes celui qui le monte, et il ne suit pas le mode d'emploi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi, tu vas faire un meuble tordu. Il va dire, ouais, tu vois l'avenir. Non, tu ne suis pas le mode d'emploi. La Torah, c'est un mode d'emploi. Tov. Donc le Zohar, il nous dit, mais attends, c'est pas juste de dire que ce serait à cause d'Avraham qui n'est pas rentré en Israël et qui est descendu en Égypte. Ben oui, mais il a raison, Avraham, pourquoi? Ben parce qu'il est venu avec Kol HaNefesh Asher HaSabeh Haran. S'il était venu seul avec sa femme, Lot, Vakasha, mais il est venu avec des milliers de personnes, comment on va leur donner à manger? Alors ils rentrent dans le judaïsme et ils deviennent pauvres, ils n'ont plus rien dans la vie. Avraham, il a une responsabilité, il doit donner le positif. Et à part ça, on est avant le don de la Torah était officieuse, on était juste assujetti aux sept lois noachides, non pas comme écrit le Ramban, que Yeshuv Eretz Israël fait partie des 613 mitzvot, dit le Ramban Nachmanide, même le Rambam, ceci étant, dans un autre traité de Melachim, enfin c'est un autre sujet. Velachen, Bissiata d'Ishmaïa, même s'il ne le cite pas dans les 613 mitzvot, Yeshuv Eretz Israël, c'est mitzvah chashuva meod. Ah ben c'est avant le don de la Torah, ma tarotse. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Avraham, il va quand même falloir qu'il justifie parce que l'homme est emmené là où il veut aller. D'où est-ce qu'on voit que Dieu lui a fait un croche-patte? Il y avait une grande famine. Est-ce que la Torah nous explique pourquoi il y avait une famine? Non. La seule raison pour laquelle sept peuplades en Israël ont commencé à crever de faim, c'est parce que Dieu avait besoin que, c'est terrible ce que je vais dire et ça fait peur, parce qu'on peut se faire plein d'idées maintenant dans la tête, alors qu'il faut bien rester fidèle au texte de la Torah. Dans le cas d'Avraham Avinu, nous dit le Zohar Kadosh, Dieu avait besoin de faire un petit croche-patte. Voilà qu'il arrive en Eretz Kenaan, il a quitté un endroit rempli d'abondance, Ur Kasdim, il arrive en Israël et il n'y a pas de quoi manger. Qu'est-ce que voulait Akadosh Baruch Hu ? Que Avraham soit face à une épreuve très difficile. Et vous savez que dans les 10 épreuves d'Avraham, la famine est considérée comme une de ces épreuves. Et est-ce qu'on a dit qu'Avraham a raté une seule de ses épreuves? Écoutez bien ce que je vous dis. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu, qui commencent par Ur Kasdim, qui disent qu'il a été jeté dans la fournaise ardente, et ça finit avec l'Akedat Yitzhak. Il les a réussi les 10. Et pourtant, la deuxième épreuve qui est citée, c'est justement la famine. Selon certains commentateurs, la famine est citée dedans. Donc, si la famine est citée dedans, c'est qu'Avraham il a réussi. En quoi c'est une faute? Donc il a eu raison. Alors Chazal, ils disent non. Avraham Avinu, il a réussi cette épreuve parce qu'il n'a pas dit à Dieu pourquoi. Il n'a pas remis Dieu en question. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec des milliers de personnes qui se sont converties au judaïsme et qui suivent Avraham aveuglément? Vayavo Avraham im kol anefesh asher asa becharan. Im kol anefesh. Comment tu veux que leur donne à manger? D'où il va leur donner autant à manger? Donc il est obligé de les emmener dans un endroit où Behemet, il se devait de les nourrir. La reine Avraham, on ne peut pas dire de lui qu'il a fait vraiment une erreur. Si ce n'est que Dieu lui a fait un croche-patte sur l'histoire. Le croche-patte, c'était de lui fermer un tout petit peu la porte de Canaan, parce qu'il aurait eu besoin que Avraham soit responsable d'une chose sur laquelle il était ici nécessaire qu'il aille en Égypte, mais ça doit être une faute. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Alors, il a fauté ou il n'a pas fauté? C'est Dieu qui fait les choses, c'est pas Dieu qui fait les choses. Ça embrouille. Je vous ai dit que c'est compliqué le libre arbitre. Pour comprendre ça, je vous dis franchement, chers amis, si vous voulez approfondir l'étude, il faut rentrer dans le côté ésotérique. C'est qu'Abraham, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Et Adam Arishon, il est né où? En Eretz Israël. À quel endroit précis? Là où il y a le Beit Hamikdash. Dieu leur a tout donné. Le Gan Eden, tout. Ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, tout était à lui. Quand ils les ont renvoyés, Vaygaresh Otam, Otom, Gan Eden, Mikedem, ils ont renvoyé Adam Arishon. Est-ce qu'on voit une seule fois Adam Arishon pleurer son sort, demander à Dieu, je veux rester au Gan Eden? Il a dit, ok, j'ai fauté, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Il a quitté Dafka quel pays? Dans le monde d'en haut, il a quitté Eretz Israël. Étant donné qu'il avait quitté Eretz Israël parce qu'il avait consommé du fruit, c'est imagé bien entendu, quand il revient vers Eretz Israël, il reçoit la monnaie de sa pièce. Dieu t'avait dit, tu pourras manger de tous les arbres, tu ne mangeras pas celui-là. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a mangé donc un arbre, il a juste mangé celui qui était interdit. Ce qui fait que quand il s'est approché d'Eretz Israël, eh bien Eretz Israël a voulu le réparer. Si tu viens dans ce pays pour le réparer, tu n'auras rien à manger, parce que tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Seulement, comme Avraham Avinu, c'est la réincarnation d'Adam Arishon qui ne s'est pas battu pour rester dans le Gan Eden, qui a accepté son sort. Alors Israël l'a mise à l'épreuve. Et la terre d'Israël lui a dit, regarde maintenant qu'il n'y a plus rien à manger, est-ce que tu es prêt à te battre pour ce pays? Est-ce que tu es prêt à rentrer maintenant en Eretz Israël? Et qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il dit non, je dois récupérer des nitsotsot, c'est sûr, je vais descendre en Égypte. Là-bas, il y a de quoi manger. C'est considéré maintenant comme une répétition de la faute d'Adam Arishon. C'est en ce terme que là, on va dire, l'homme est emmené là où il veut aller. Je sais que c'est un peu dur à comprendre, mais c'est très clair, en tout cas pour moi, personnellement. L'homme est emmené là où il veut aller. Si Abraham avait voulu faire Teshuvah sur son Gilgoul précédent, sa réincarnation, alors il serait rentré. Et là, tout se serait arrangé d'une certaine façon. Mais étant donné que l'homme est emmené là où il veut aller, alors à Kadosh Baruch Hu, si on est démoniaque, c'est permis de se suicider. Oula. Ok. La reine va dire qu'il est préférable de comprendre que Akadosh Baruch Hu est capable de surfer parce qu'en réalité, l'homme est emmené là où il veut aller tout simplement. Bezrat Hashem. À propos de Moshe, Dezer Aya Ercher le Kabbalat à Torah. Et grâce à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est sorti d'Égypte, donc nous dit le texte. Dezer Aya Ercher le Kabbalat à Torah. Et on est devenu par la suite kasher en remontant les 49e paliers de pureté afin d'être digne de recevoir la Torah. Vechen Retzono Shel HaKadosh Baruch Hu Haya Shemoshe Rabbeinu Lo Yikanes Eretz Israël. Et pour Moshe, il dit pareil le texte. On savait très bien depuis le début que Moshe ne devait pas rentrer en Eretz Israël, donc pourquoi chercher des excuses? Parce que comme ce n'était pas le temps, disent les Chachamim de la Geoula, Moshe ne pouvait pas rentrer, car le peuple n'était pas encore digne de recevoir la Geoula. Donc, Knesset Moshe Rabbeinu Eretz Israël, Kevan Sheretzono Shel HaKadosh Baruch Hu Haya Shebnei Israël Yirdu LeMitzrayim Moshe, Moshe Lo Yikanes Eretz Israël, Dvarim Elu Hem Prinat Onesh. Et là, ce qui est très curieux, c'est que il s'agit donc d'une punition pour Abraham, il s'agit d'une punition pour, comme ça dit le texte, pour Moshe Rabbeinu, Ve'en Onesh Bichet. Et on sait que il n'y a pas de punition s'il n'y a pas de faute commise. Zera Chochmato Shel HaKadosh Baruch Hu Shiyu Chataim Yigemu Davar Zeh. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh bien, il les a mis à l'épreuve. Mais ils ont vraiment fauté eux-mêmes. Ça veut dire que même s'il y avait la famine, il n'y a pas marqué interdit de rentrer en Eretz Israël. Tu aurais dû rentrer, mais tu n'es pas rentré. Pour Moshe Rabbeinu, tu as vu que l'eau n'a pas sorti si ce n'est que des petites gouttes. Et pourtant, tu n'as pas eu la patience et de faire le Kiddush Hashem, qu'avec la parole, on peut résoudre les problèmes sans pour autant frapper dessus. Résultat des courses, vous avez fauté. Mais quelque part, Dieu a fait un croche-patte. Parce qu'il avait besoin de justifier le pourquoi de la punition. Alors, donc il insiste bien. Malgré tout, est-ce qu'ils auraient eu le choix? Oui. Est-ce que Moshe il aurait eu le choix de ne pas frapper le rocher? Oui. Est-ce qu'Abraham aurait eu le choix de ne pas descendre en Égypte et malgré tout de rendre Eretz Israël? Oui. La Bechira est restée, le choix est resté. Mais la faute était quand même tapis à la porte. En od milibado. Et donc il vient de dire, malgré tout, ne t'imagine pas une seule fraction de seconde, que malgré les épreuves que nous recevons, malgré que des fois Dieu nous met des petits croche-pattes comme ça sur la route, on n'est pas le choix. On est totalement responsable. Vous savez, ça me rappelle un peu le code de la route. Quand tu roules comme ça, ouais, et que quelqu'un traverse sans prévenir un endroit qui n'est pas sur le passage clouté, que tu le touches un petit peu. Ben, tu peux très bien dire, excusez-moi, mais regardez les caméras, ils ne traversent pas au bon endroit. Et puis, qu'est-ce qu'on te répond? Monsieur, on doit être maître de son véhicule, on doit tout prévoir. C'est la loi, c'est la loi. Vélachène, dans ces conditions-là, malgré tout, il faut savoir que le libre arbitre est resté dans les mains d'Abraham et de Moshe Rabbeinu. Mais que leur tendance ou que leur vision des choses les a menés à faire une Messirut Nefesh que Dieu connaissait. Et cette Messirut Nefesh, ce don de soi, venait pour justifier Akadosh Baruch. On a vu que le roi David, on l'a déjà expliqué dans l'un de Shiurim, que lui pareil, d'un côté on dit que le roi David a fauté, et de l'autre côté on dit celui qui dit qu'il a fauté se trompe. Alors il faudrait peut-être savoir, il a fauté ou il n'a pas fauté? Décide. Réponse, il a fauté intentionnellement pour qu'on dise qu'il a fauté. Donc, le but c'était qu'on dise qu'il a fauté. Mais pas pour qu'on dise que réellement il a fauté. Quand Dieu lui a dit « Je vais te mettre à l'épreuve », qu'est-ce qu'a dit le roi David? Il a dit, très bien, ce sera quoi l'épreuve? Il dit, Batsheva. Il dit, quoi? C'est ça l'épreuve? Et donc, si je gagne, ça veut dire que tout le monde dira, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Eloke David. Dieu lui a dit, oui, si tu veux. Qu'est-ce que va faire le roi David quand il est face à Batsheva? Il avait le choix de fauter ou de ne pas fauter. Et lui, il a fauté intentionnellement. Pour ne pas que l'on dise dans l'histoire que le roi David a battu Dieu. Il a dit, je préfère qu'on dise de moi du mal. Je préfère qu'on dise de moi que j'ai fauté. Que l'on dise dans l'histoire que le roi David, il a mis Dieu à l'épreuve et que c'est le roi David qui a gagné. Donc, je préfère perdre. Ainsi fut le cas de Moshe. Moshe, pourquoi il frappe le rocher? Parce qu'il dit, si je parle au rocher, et que le rocher m'obéit, ça veut dire que les enfants d'Israël sont plus durs qu'un rocher qui, lui, je lui dis une seule fois, sort de l'eau. Deux fois, sort de l'eau, et il sort de l'eau. Tandis que les enfants d'Israël vont dire, soit Shomer Shabbat, soit Shomer Nida, fais attention le Kisouï, fais attention les Tfilines, fais attention. Uf, combien on va les attendre? Pour ne pas qu'il y ait d'anges accusateurs, que le minéral d'où vient le rocher soit capable d'obéir très vite, et que l'homme, avec son libre arbitre qui a été créé à l'image de Dieu, ne soit pas capable d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a préféré frapper et être accusé d'avoir fait un péché que d'obéir à Dieu et de laisser un chilul Hashem et une accusation intervenir. Dieu le savait. Vadai que Dieu le savait. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, parle au rocher, car je sais que tu ne lui parleras pas. Tu vas le frapper. Et moi, j'ai besoin justement que tu fasses une petite faille pour justifier le fait de tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Parce que de toute façon, il ne faut pas que tu rentres. C'est une punition que je dois t'imposer. En tant que titre punition. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment de la Géoula. Et ça rejoint ce que m'a appris mon rave. Si Abraham était rentré en Eretz Israël, ça aurait été la Géoula. Mais ce n'était pas le bon moment. Comment on appelle ce qui nous donne l'heure ? Le bon moment, Shaon. D'accord ? En hébreu, le mot montre, une montre, se dit Shaon. Si vous interversez les lettres, ça devient Onesh. C'est les mêmes lettres que le mot Shaon. Pour te dire que, des fois, quand ce n'est pas le moment, HaKadosh Baruch Hu, il provoque. Tu mérites une punition. Mais en réalité, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le moment. À quoi ça ressemblerait? Je finirai avec ça pour cette première étude. On avait lancé. Eh bien, tout simplement. Ça rappelle l'histoire de l'enfant qui veut rentrer chez lui et ils lui ont préparé une très 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 grande fête. Très grande fête. Maintenant, ils sont en pleine préparative et la surprise va être gâchée parce que l'enfant est venu un peu trop tôt. Qu'est-ce que fait le père? Papa, ouvre-moi. Non, je te laisse pas rentrer. T'as vu comment tu as parlé la dernière fois? La dernière fois, mais tu m'as pas dit que c'était grave ce que j'ai fait. Si, tu m'as mal parlé. Il est hors de question que tu rentres. T'as qu'à rester un peu dehors. Mais en réalité, qu'est-ce que voulait le père? Gagner du temps jusqu'à ce que tout soit prêt à l'intérieur. Mais lui, pour le laisser dehors, il faut bien justifier. Oui, j'ai besoin de te trouver une faute. Ainsi donc, on voit que le Créateur du monde est capable de glisser, de surfer dans notre libre arbitre, dans notre façon d'être, à 100% face à notre choix, mais malgré tout d'accomplir ce que lui a besoin de vivre avec nous. Alors vous allez me dire, c'est très compliqué, quand même. Ça veut dire que des fois, quand on faute, alors c'est nous ou c'est lui? Réponse, c'est toi. Parce que tu avais les armes pour lutter. Mais maintenant que tu as fauté, HaKadosh Baruch Hu, il saura aussi comment mener à bien son histoire. Je finirai avec une dernière explication. On a souvent cité, mais qui est très importante à retenir, c'est que, imaginez que Monsieur Intel, Monsieur A, dans sa réparation, a besoin de se faire cambrioler pour réparer sa faute. Vous savez ? Merci d'avoir écrit, Chazak ou Baruch, magnifique shiur. Je vous affirme que j'aurais donné beaucoup pour avoir ce genre de shiur quand je voulais apprendre la vérité sur la Torah. Malheureusement, on ne me les a pas donnés. C'est mes études et je vous les fais partager. Mikol Alev, c'est des études de très, très, très... Pour moi, c'est des études capitales au niveau de la compréhension de ce monde, de ne pas juger Dieu, d'avancer dans la vie, de rester quelqu'un de simple malgré la complexité qui nous entoure. Toda Rabba pour vos messages. Que Dieu vous bénisse. Mamash Toda. Alors juste comme ça, je finis avec cet exemple. Donc A doit se faire cambrioler. Attends, pour le cambrioler, il faut bien qu'il y ait B. Monsieur B. Ben, il faut bien le cambrioleur pour qu'il se fasse cambrioler. Vous êtes avec moi avec les deux mains là? Très bien. Ben, alors, si Dieu il veut qu'il se fasse cambrioler, le cambrioleur, lui, donc on pourrait penser qu'il n'a rien fait. Oui ou non? C'est simple à comprendre, puisqu'il a besoin d'un cambrioleur. Qui Dieu va trouver pour être le cambrioleur? Il va regarder sur terre. Qui a envie de faire du mal? Qui est tout le temps jaloux? Qui veut le bien des autres? Qui pense que Dieu ne fait pas une justice en donnant plus à l'un qu'à l'autre? Comme le font tout cet esprit on ne peut plus impur qu'on appelle le communisme. Il n'y a pas plus anti-Torah, anti-justice qu'un communiste. Un communiste, c'est un homme qui se cache derrière l'habit de la jalousie, et de la inara. Ah, il a réussi alors. Ouais, ben ce que tu as gagné, c'est à moi. Le mec s'achète deux maisons, on va squatter une maison en disant ouais, pourquoi tu aurais deux maisons, moi j'en ai pas. Ben, va travailler comme lui et fais ce que tu as à faire, que si tu veux chez lui. Chacun son mazal. À la limite, va voir Dieu, mais lui, il y est pour rien. S'il a de la chance, alors quoi, tu veux lui prendre sa chance? Alors comme ces gens-là ont un esprit tordu et jaloux, faut pas avoir honte des mots, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, avec belle cravate et en parlant bien, c'est le communiste, Hachem Ishmor Virachem, résultat des courses. Par contre, je retourne les choses, que Dieu te donne et que toi tu partages, que toi tu as un esprit de communication et pas de communiste, ça c'est très beau. Mais de violer la propriété de l'autre, de lui prendre son argent en estimant que les riches travaillent doivent donner aux pauvres, qu'on les oblige à cela, ben c'est anti-Torah, parce que la Torah voit ça comme un mérite. Ouais, comme c'est beau la Torah. La Torah, elle voit celui qui a de l'argent et qui dit « Attendez, il y a des pauvres, moi je donne 10 millions d'euros. » La Torah lui fait comme ça. « Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est quelqu'un de bien. » Mais qu'on aille lui prendre, c'est du pur vol. Tov, voilà que Dieu va regarder une personne qui est jalouse. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Eh bien, comme l'homme est emmené là où il veut aller, on va lui raconter, tu sais, il y a une maison là-bas, il y a une tonne de choses à voler. Et là, lui, il dit « Ah ouais ?» Et il va se laisser chauffer. Dieu lui dit « Banco, ce sera toi le voleur. » Alors, est-ce qu'il est responsable ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y avait que de la jalousie, qu'une façon facile de gagner sa vie sur le dos des autres, sans se soucier des larmes, sans se soucier des désarrois, sans se soucier... Maintenant, plus ça, les voleurs, ils sont très intelligents. Ils me tuent de rire. « Ah, mais c'est pas grave, il va avoir l'assurance. » C'est le mec qui fait le calcul, de bon, c'est pas grave, parce qu'en réalité, il va se faire rembourser par l'assurance, je sais pas quoi. Mais l'assurance aussi, tu la voles dans ce cas-là. Et c'est permis de voler une assurance. Où est-ce que c'est marqué? La reine. Celui A, qui devait se faire voler, il va se faire voler. B, c'est comme si qu'il lève la main sur terre en disant, moi je veux bien être le voleur. Très bien, tu seras le cambrioleur, dit Dieu. Et ainsi donc, Dieu a accompli son plan sur la médiocrité des fois de certaines personnes qui ont mal choisi leur chemin, malheureusement. Par défaitisme, par découragement, par fatigue, par anhilodème. Plein d'arguments qu'on pourrait chacun de nous citer et expliquer. Voilà, c'était notre quatrième cours sur le libre arbitre. Et je vous dis, on est loin d'avoir fini. À mon avis, ce sera une série de 10 cours minimum avant que l'on finisse peut-être 1% d'explication sur qu'est-ce que le libre arbitre, en tout cas selon les corps extérieurs de toutes les explications données par nos Chachamim. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Ve'amen. Kol Tov.